Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Delphine Darmon et vous écoutez Demain n'attend pas. Dans ce podcast, nous discuterons à bâton rompu et à cœur ouvert avec des hommes et des femmes qui travaillent à rendre le monde un peu meilleur. Ils sont entrepreneurs engagés, investisseurs à impact, fondateurs d'ONG, artistes activistes. Ils repensent les industries traditionnelles comme la mode ou l'agroalimentaire. Ils agissent dans les domaines de la santé, de l'éducation ou de l'environnement. Ensemble, nous échangerons sur leur parcours, les raisons de leur engagement et sur leurs projets. Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est un épisode très spécial que je vous propose aujourd'hui, un épisode qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit d'un enregistrement live de la table ronde magnifique que j'ai réunie il y a 2 semaines pour fêter la sortie de mon livre « Les Inspirants ». Cette table ronde a rassemblé 5 contributeurs incroyables du livre à la librairie Le Divan. Marine Calmet, fondatrice de Wild Legal et avocate du droit de la nature. Nicolas Chaban, fondateur de C'est qui le patron. Rada Hatem, fondatrice de la Maison des Femmes. Abdelali El Badawi, fondateur de Banlieue Santé. Et Flore Vasseur, réalisatrice du documentaire Bigger Than Us. C'était absolument phénoménal de les rassembler et d'échanger ensemble. Ça a été un vrai moment de partage et de célébration, un moment de grâce que je me réjouis beaucoup de partager avec vous. J'espère que vous excuserez un peu la qualité du son qui est moins bonne que celle de mes enregistrements habituels. C'est un enregistrement live avec des micros parfois un peu lointains et parfois des bruits de fond. Ensemble, on a parlé de la naissance de l'idée qui a amené chacun d'entre eux à s'engager. On a parlé de leur besoin de se battre contre des injustices, de la force des communautés, de notre capacité à nous tous, à participer à la construction d'un monde meilleur. Et on a parlé des joies de l'engagement. Cet échange m'a rendue infiniment heureuse. Il est la quintessence des messages que j'aimerais diffuser avec ce podcast. Il m'a renvoyée à ma responsabilité individuelle et à ma capacité à agir. Il a renforcé mes envies d'engagement, il m'a émue, il m'a réjouie, il m'a fait me sentir plus forte. J'espère qu'il aura sur vous le même effet. Et si c'est le cas, partagez-le largement autour de vous. Et si vous en voulez plus, courez chez votre libraire, vous pourrez vous procurer le livre « Les Inspirants ». Lisez-le et offrez-le à vos amis. En plus des échanges avec les 5 invités de la table ronde, vous y trouverez également des dialogues avec Jean-Louis Etienne, avec l'artiste JR, avec le photographe Reza, avec le patron Pascal Desmurgés, avec le chef cuisinier Mauro Colagreco et avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Chacun de ces 11 invités nous montre comment faire de son métier un métier engagé et ensemble, ils murmurent à notre oreille « Et nous, qu'est-ce que nous pouvons faire ?» Je vous laisse avec les 5 invités de ma table ronde et vous souhaite une très très belle écoute.
Alors mes amis, merci. Merci beaucoup d'être là. J'aimerais commencer par le commencement et vous faire parler de la genèse de vos projets. Je vais vous faire un peu en tour de table. Moi, ce qui m'a bluffé à chaque fois qu'on s'est parlé, à chaque fois que je vous ai rencontré, ça a été votre capacité à ne pas vous satisfaire de la situation telle qu'elle était dans le système que vous fréquentiez. Donc, j'aimerais que vous me racontiez à la fois comment vous avez réussi à vous mettre en distance avec le système, à inventer quelque chose de complètement différent, parce que vous avez tous réinventé quelque chose. Et comment cette idée est venue et a pris forme et à un moment, elle a germé. Et je voudrais juste faire référence à quelqu'un qui n'est pas là, qui est Jean-Louis Etienne, qui dans son interview nous dit une phrase qui est très très belle sur l'idée, sur la naissance de l'idée. Il nous dit, et je vais peut-être, je vais pas l'écorcher, je vais aller la retrouver. Au début, il y a eu le rêve. À un certain moment, vous avez une idée. Vous dites, j'aimerais faire ça. Et ça déclenche quelque chose en vous. Cette idée, c'est précieux, c'est à vous, c'est votre histoire. C'est comme une rencontre amoureuse. Je trouve ça très très beau. Donc voilà, je voulais savoir quelle était votre rencontre amoureuse à vous. Comment vous avez senti que c'était votre moitié.
Rada.
Tu veux commencer?
Si je veux.
Écoute, merci de m'avoir interviewée et de me donner l'occasion de parler de cette idée parce que effectivement, c'est une idée toute bête qui est complètement issue de ma pratique quotidienne, puisque, on vous l'a dit, je suis gynécologue accoucheuse, et donc je fréquente presque exclusivement des femmes, parfois leur mari, leur conjoint. Et ça donne évidemment, au bout de X années de pratique, une connaissance assez fine des patientes, de ce qu'elles disent, de ce qu'elles ne disent pas, de ce qu'elles essaient de cacher, de ce qu'elles taisent. Et petit à petit, alors que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à la fac de médecine, je me suis aperçue que beaucoup de choses qu'elles avaient pu vivre dans leur enfance ou dans leur couple pouvaient expliquer des situations auxquelles je ne comprenais pas grand-chose, pour lesquelles je faisais des examens qui ne donnaient pas de résultats. Et en regardant la littérature, en fait, je n'avais rien inventé, puisque ça fait un moment que des études ont montré que les événements douloureux, les Américains disent adverses, je préfère douloureux de l'enfance, explique une grande partie des maladies que nous avons à l'âge adulte, une grande partie de notre absence d'adaptation à ce que nous vivons, et sont responsables de maladies chroniques, de décès, de X années de perte de vie en bonne santé, et tout ça est très documenté. Et en tant que gynéco, je m'étais déjà intéressée à des parcours de santé, comme la grossesse et l'accouchement. C'est un parcours extrêmement passionnant, puisqu'on part d'une femme qui veut un enfant, et puis ensuite on arrive à la naissance d'une famille. Tout ça nécessite un accompagnement extrêmement adapté à chaque moment. Et puis on a fait la même chose pour le cancer du sein, pour la stérilité, pour l'endométriose maintenant. Mais on n'avait pas fait de parcours dédié aux femmes, mais je pense qu'il en faut aussi aux hommes et encore plus aux enfants, qui ont subi des violences. Et donc, ma petite idée à moi, c'était de dire, je vais faire la même chose. J'avais déjà monté des centres de filles, des centres de prise en charge du cancer. Je vais essayer de faire la même chose pour la violence. Le problème, c'est qu'on est en France et que quand vous avez une idée, mais qu'elle n'existe pas, c'est le principe d'une idée, eh bien, en général, vous rionnez. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a beaucoup rionné en me disant, mais à quoi ça sert, qu'est-ce que tu veux faire? Et heureusement, j'ai eu quand même quelques alliés, notamment ma directrice, et nous avons convenu qu'on allait pouvoir installer une prise en charge comme ça, mais que comme l'hôpital était déjà plein comme un œuf, il fallait construire un bâtiment. Et là, on tombait dans la problématique cruciale de où est-ce qu'il y a de l'argent. Et ça non plus, je n'avais pas appris à la fac de médecine où est-ce qu'il y a de l'argent, donc ça a été un nouveau métier qui m'a permis de rencontrer le mécénat d'entreprise, le RSE, des donateurs individuels, et puis aussi des villes, des communautés, la région, toutes choses qui ne font pas du tout partie du quotidien d'un médecin. Et ça m'a permis aussi de lever de l'argent, de construire un bâtiment, de recruter une équipe, et aujourd'hui de construire ce fameux parcours qui s'adapte aussi bien aux femmes qui ont subi des violences dans l'enfance qu'à celles qui vivent des violences conjugales, qu'à celles qui ont subi des viols, de l'inceste, des excisions. Et puis aussi, dans notre maison, il y a un parcours santé sexuelle, parce que c'est souvent la base. Une mauvaise santé sexuelle, ça n'aide en rien. Et la prévention passe par une éducation à la vie affective et sexuelle, à la prévention des violences, à la connaissance de son corps, à refuser qu'on touche votre corps quand on est un enfant. Il y a énormément de choses à expliquer aux enfants. Ce sont des choses que nous faisons régulièrement. Donc voilà. Et puis bon, c'était ma petite idée à moi. Elle a vu le jour, j'étais très contente. Ce que je n'avais pas anticipé, c'est qu'elle a intéressé d'autres personnes et qu'il y a eu un petit effet boule de neige. Et puis c'est pour ça qu'on est bientôt loin. Voilà.
J'ai essayé de refiler le micro à mon voisin, mais bon. Non ? Ok. D'abord, un immense bravo à toi. Est-ce qu'on pourrait applaudir ? De nous réunir si nombreux ce soir. Et puis moi, je suis bien contente de rencontrer mes nouveaux copains. Ça fait du bien de lire ces histoires et de vous entendre. Merci. Moi, je vais faire court, enfin j'espère, puisque tu as posé la question du déclencheur, ou en tout cas de la rencontre avec. J'ai l'impression, hein, parce que je m'intéresse beaucoup sur ça, en tout cas qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent ou qui ont la force de bifurquer, puisque vous posez la question et que ton but, c'est d'aider à inscrire ça dans un parcours professionnel, parce qu'on rencontre une quelque chose qui est de l'ordre de la violence ou de l'injustice ou de l'humiliation ou de la honte en ce qui me concerne, et qu'on ne peut pas s'en accommoder en fait. Cette espèce d'énergie de l'enfance face à une injustice qui dit « c'est pas juste ». Et l'autre énergie de l'enfance, c'est de dire « pourquoi c'est comme ça ?». Et moi, c'est venu me chercher assez tôt, puisque j'étais partie pour être femme d'affaires, ce que j'étais d'ailleurs à New York très tôt, 24 ans, start-upeuse, pendant la première bulle Internet. S'il y a des dinosaures dans la salle, vous savez de quoi je parle. Et donc voilà, j'étais partie de cette histoire-là et ça marchait bien pour moi. Et puis, j'ai assisté aux attentats du 11 septembre. Moi, j'étais à quelques centaines de mètres, très proche, toute seule. Et ça a changé ma vie. Je ne considère pas du tout que j'ai été victime. Mais voilà, j'ai été impactée très fort, je pense, du coup, dans presque ma moralité, en fait. Et j'ai pris en pleine face une violence, et en fait, la violence de notre monde. Mais j'ai une lecture assez différente de ce que la plupart des gens ont vécu, puisque moi, j'ai vécu ça comme un boomerang et non comme un pur attentat. Je me suis rendu compte que si on se prenait ça dans la figure, c'est qu'on envoyait au monde quelque chose qui était de l'ordre de cette violence, et qu'en étant femme d'affaires, en étant cette jeune femme qui ne rêvait que d'être riche et efficace et machin, et ben je participais à cette violence du monde. Donc ça m'a fait décrocher complètement. Les jeunes d'aujourd'hui vous diraient bifurquer. C'était très jeune, donc j'ai pas beaucoup de mérite. Hein. J'étais pas installée dans une vie de confort. Et en fait, du coup, moi, mon moteur, ça a été cette espèce de honte de société que j'ai dû pouvoir percevoir, et le désir absolu de la saisir, comme de la terrasser, quoi, de la comprendre. Et donc, mon outil de prédilection au démarrage, parce que ça ne coûte pas grand-chose, coucou les éditeurs, et ben, c'était de faire un livre, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis un quatrième, et puis après des films. Voilà. Donc, l'écriture m'a sauvée. Et je travaille dans deux directions, qui est cette espèce de comprendre cette violence et en quoi, en participant à tout ça, on y contribue, comment on peut s'en extraire. Et voilà. Et donc, voilà comment on peut s'en extraire en se rapprochant, comme tu as fait. J'ai eu la même démarche que toi. J'ai voulu comprendre. Et je pense que dans ce qui nous rassemble, j'imagine, c'est, voilà, cette expérience peut-être de l'injustice, en tout cas à un moment personnel. Et puis de dire, bah, j'ai juste besoin, par dignité personnelle, en fait, de comprendre. Et après, il y a un chemin créatif qui se met en place, mais il y a de la colère, en fait.
Et Fleur, tu peux peut-être prendre juste une minute ou deux pour présenter, du coup, tes premières enquêtes, tes premières recherches.
J'avais fait une grande école de commerce, dont j'ai retrouvé une camarade aujourd'hui, j'avais fait pas mal de macroéconomie, donc voilà, je me suis intéressée à ce qui... le système que nous utilisons, hein, c'est pas un grand mot, gros mot, ni rien, donc le capitalisme, et donc j'ai étudié... le pouvoir de la finance, le pouvoir de la technologie, la collusion entre les trois. Enfin voilà, j'ai plongé dans le moteur nucléaire. J'en suis pas sortie très grandie. Ça fait du bien de comprendre, mais ça suffit pas en fait. Ce qui m'a beaucoup plus sauvée, c'était de me rapprocher, comme toi là, d'artistes, d'entrepreneurs sociaux, de penseurs, beaucoup de gens qui tentaient des brèches en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, le grand bonheur de cette période, oui, il y en a, c'est que de façon manifeste, ce que l'on pouvait dénoncer, et voilà, de toute façon, est en train de tomber, de se disloquer tout seul. Donc ça ne sert plus à rien de dénoncer là, il faut passer à autre chose, poser les briques de ce qui pourrait advenir. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'on a besoin exactement de tout le monde. Moi, avec ce discours-là, il y a quelques années, je me faisais sortir direct. Maintenant, je peux aller partout. Donc, ça devient presque confortable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que la période est magnifique parce que justement, il peut y avoir des brèches comme ce que vous êtes tous en train de faire. Ils sont plus que des brèches. Vous faites des écoles. Enfin, moi, je trouve ça, mais c'est fou, quoi. Et c'est pour ça que cette période me plaît énormément. Parce qu'enfin, tout est sur la table et qu'on est tous à pouvoir s'en saisir. Voilà. Merci, Claire.
Si vous n'avez pas vu Bigger Than Us, allez le voir, c'est sur toutes les plateformes.
Pas Netflix, parce que je ne suis pas copain, mais vous le trouverez facilement.
Voilà.
Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là, parce que je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde.
Vous êtes des rockstars.
Et puis, merci à mes collègues qui sont là, c'est présent. Et moi, je suis très honoré de cette table parce que chacun d'entre eux m'inspire à travers de leur parcours et de ce qu'ils font. Et je regarde tout ce qu'ils font. Nicolas, plus parce que j'ai vu plus tôt que tout le monde. Enfin, et Rada avec la Maison des Femmes. Tu sais qu'on est tous les deux fellow Ashoka, donc maintenant on se connaît. Et Flore, que je ne connaissais pas, et qui finalement on a des connaissances communes. Et merci d'être là. Merci Delphine de nous réunir. Je ne sais pas quoi dire sur la rencontre amoureuse, mais je crois que c'est celle de mon accident avec ma mère. Donc à l'âge de 6 ans, j'ai un accident qui fait que je suis brûlé à 70% de la surface de mon corps, sauf le visage et mes mains. Et en fait, c'était un moment assez particulier parce que je pense que je ne comprenais pas ce qui se passait, si ce n'est que ma mère était affolée et je ne pleurais même pas de douleur. Et ça a été pour moi un moment, je dirais, incroyable parce que... je suis désolé, je suis malade en fait. À chaque fois que j'en parle, c'est assez émouvant parce que ma mère, c'est tout pour moi. Elle nous a éduqués. On est 7 frères et sœurs. Moi, je suis d'origine marocaine, du sud du Maroc. Donc, mes parents sont illettrés et analphabètes. Mon père a quitté son village pour venir travailler en France dans les mines de charbon, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc, je pense que les deux rencontres amoureuses, c'est cet accident qui m'a fait entendre que j'allais être marié à la santé parce que les équipes ont été formidables, les médecins, les pompiers, les femmes de ménage, tout le monde, en fait, était incroyable avec moi, le bloc opératoire. Enfin, bref, je me rappelle de chaque détail. Je me rappelle de la chambre stérile, je me rappelle de tout. Et je me rappelle surtout de la manière dont les soignants était au chevet de ma personne, mais en fait de toute la famille. Et ça, je pense que c'est un... On ne se rend pas compte de ce que les soignants peuvent porter au quotidien, qui sont la famille, le patient, les équipes, les décès. Rada peut en parler mieux que moi, et en plus, pour la gynécologie, c'est encore plus dur, probablement. Mais ça a été vraiment un fait marquant. Et le deuxième, je pense que c'est les 20 ans de combat de l'amiante de mon père, qui a fait que, en fait, un jour, il m'a dit « Tu ne te rends pas compte tous ceux qui sont morts sans avoir leurs droits ?» Et ça m'avait frappé. Je me suis dit un jour, je vais créer une organisation qui va lutter contre ça. Voilà.
Ça, c'est pas du casque. Je vais t'embêter un peu, parce que là, tu es en train de me dire que tu avais vocation à être avocat ou médecin.
Ah ouais, c'était mon rêve.
Hein, et tu es effectivement rentré dans le corps médical. Mais tu ne réponds pas complètement à ma question, donc je vais venir t'embêter. Ouais. Parce que tu as suivi ta vocation, tu es devenu infirmier à domicile. Ouais. Et tu étais déjà dans, les Américains diraient dans le care, tu soignais des gens. Mais à un moment, tu as été au-delà, tu as créé une plateforme d'impact qui te dépasse. Tu as créé Banlieue Santé, et puis derrière, Banlieue Santé, vous ne le savez pas encore, mais Banlieue Santé est SME, il y a maintenant Banlieue Sport, Banlieue School, Banlieue Climat, donc il y a un déploiement de dingue derrière. On y reviendra. Est-ce que tu peux nous rajouter peut-être un petit mot pour nous expliquer comment l'idée est venue de créer Banlieue Santé, comment tu es passé d'un infirmier à domicile à un fondateur d'une association?
En fait, j'ai gagné très bien ma vie à ce moment-là, en tant qu'infirmier libéral, mais je voyais beaucoup trop de patients. Et en fait, je suis quelqu'un qui refuse jamais. Donc, quand vous m'appelez pour venir soigner, je venais au chevet du patient. Et en fait, un jour, un patient, il m'a dit, et c'était mon premier patient, il m'a dit, Abdelali, tu prends plus le temps comme avant. Et là, je me suis senti maltraitant. Je me suis dit, non, il faut que j'arrête. Il faut que je fasse autre chose. Et j'ai décidé de dire à mes équipes qui étaient avec moi, d'infirmiers, infirmières, je décroche mon enseigne et j'arrête le métier. Et alors que je m'étais battu pour ça toute ma vie, pour être infirmier, et j'ai décidé de dire en fait, je crée une organisation qui va recruter des médecins et des avocats pour penser les choses. Et donc aujourd'hui, c'est ça l'aventure, c'est que je pense que c'est surtout des rencontres humaines. Souvent, on me demande qu'est-ce qui fait que t'en es là. C'est qu'à chaque fois, on m'a tendu la main. Celui qui m'a donné l'opportunité de devenir infirmier, c'est un cadre de santé. Celui qui m'a donné l'opportunité de faire mon premier job parce que l'école ne voulait plus de moi en tant qu'homme de ménage pendant 7 ans, c'est un cadre de santé. Et celles qui m'ont tout appris, ce sont les femmes de ménage.
Merci Abdelali de nous amener avec toi dans les rencontres qui t'ont amené à créer ton ONG, parce que c'est souvent de rencontres qu'il s'agit. Marine, est-ce que tu peux prendre le micro et nous parler de ce qui t'a amené toi à créer Wild Legal ?
Pour l'histoire, je suis fille de biologiste et mon père m'a éduquée comme ça, grâce notamment à la plongée sous-marine, à vivre une vie d'observation, regarder sans toucher, respecter le vivant. C'était vraiment pour nous un apprentissage de à la fois découvrir la nature, le vivre comme une expérience de famille. Mon père est passionné, il peut passer 25 minutes à photographier le même corail sous toutes les coutures et à te passer ensuite les vidéos. J'ai appris la patience avec les humains et les non-humains. Et en fait, ça m'a accompagnée toute ma vie. Donc, pendant mes études, j'ai choisi de faire du droit. À la base, je voulais faire commissaire-priseur. Et puis finalement, on commençait à quand même beaucoup parler de réchauffement climatique. Et je me suis dit, mais peut-être que là, j'ai quelque chose à faire. Le droit, ça me semblait être un outil extraordinaire parce qu'il y a énormément de batailles qui se jouent dans les tribunaux. Et en même temps, donc je me suis engagée, j'ai fait du droit de l'environnement, je me suis spécialisée sur les questions du climat, le droit pénal de l'environnement, etc. Et puis, à mettre à disposition des ONG, en fait, mon maigre bagage juridique, quand j'ai commencé en disant « qui a besoin d'un juriste ?» et en fait, une fois mon diplôme d'avocate en poche, je me suis dit « ça y est, c'est parti !» Maintenant, je me lance à la conquête du monde. Je vais faire une grande carrière d'avocate en matière de protection de l'environnement. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais parfaitement inemployable. Parce que tous les grands cabinets d'avocats à qui j'ai envoyé mon CV m'ont fait comprendre qu'en gros, j'avais pas choisi le bon camp. Que eux défendaient Monsanto, Vinci, Total. Et que moi, j'étais déjà tellement active dans le milieu associatif et avec des ONG, etc., qu'en fait, il y avait une impossibilité pour eux même de m'embaucher, parce que souvent, je me suis retrouvée dans une situation où je défendais déjà leur adversaire. Donc, enfin, c'était lunaire pour moi, puisque c'est pour ça que c'était une rupture aussi amoureuse, parce que je me suis dit, mais j'ai étudié le droit pendant des années pour protéger la nature, et en fait, j'apprends que ceux qui exercent ne protègent pas le vivant. Et alors là, c'est le moment où j'ai essayé de trouver autre chose, parce que j'ai commencé à perdre mes premiers combats parce qu'en fait j'ai réalisé à ce moment-là que le droit de l'environnement tel qu'il avait été écrit, il était écrit pour satisfaire les besoins des industriels. Il avait été écrit par ceux qui aujourd'hui polluent, détruisent la nature, etc. Et donc je ne pouvais pas utiliser ce droit pour gagner, en fait, dans les tribunaux ce que j'avais envie de défendre. Je voudrais pas généraliser, le droit n'est pas imparfait au point qu'on puisse rien obtenir, mais malheureusement il est faussé dans son rapport de force, et souvent, bien souvent, on se retrouve bloqué par un rapport de force très très inégalitaire, en fait. Et il se trouve que dans le réseau dans lequel j'étais, j'ai rencontré une délégation de peuples autochtones qui venait de Guyane faire le tour des ministères, des députés, des sénateurs, pour parler du projet Montagne d'Or. Peut-être que vous en avez entendu parler, c'est le plus gros projet de mine d'or à ciel ouvert jamais imaginé sur le territoire français. Et ils m'ont dit, tu sais pas quoi faire de ta vie, nous on a, en Guyane on n'a pas d'avocat, donc viens. Et effectivement, d'une part, ils n'avaient effectivement pas d'avocat. Et donc, je me suis formée sur le terrain au droit coutumier. J'ai appris le droit autochtone. Pour moi, c'était vraiment le but de cette rupture amoureuse avec le droit de l'environnement et le droit français. C'était aussi aller découvrir un droit complètement différent. Parce que, en fait, il n'y a pas que nos civilisations qui sont différentes. Le droit qui est le soubassement de toutes les civilisations, par définition aussi construit des sociétés différentes. Et le droit autochtone est radicalement différent d'une autre. Donc j'étais ravie de découvrir qu'il y avait quand même d'autres opportunités et d'autres possibilités pour faire du droit. Et en revenant de Guyane française, après donc plusieurs années de lutte, oui.
Je me permets de t'interrompre parce que tu m'avais dit quelque chose que j'avais trouvé très beau,
oui.
Que tu avais un enseignement que tu avais eu auprès des peuples autochtones en Guyane, qui était que dans leur culture, tu ne prenais pas à la terre quelque chose que tu ne pouvais pas rendre à la terre. Et donc par définition, tout le droit associé au droit minier ne pouvait pas exister.
Oui.
Et on voit toute la sagesse qu'il y a derrière cette phrase, mais on voit aussi comment nos mondes sont incompatibles.
Parfaitement incompatibles. D'ailleurs, c'était ça qui était fascinant. C'était que, d'une part, ils ont survécu à la colonisation française, ils ont maintenu leurs droits coutumiers, ils ont tenu ensemble. C'est vraiment ça, alors que j'ai ramené, en tout cas en moi, en Guyane, c'était la prise de conscience que notre monde, il nous avait fractionné par le biais du droit aussi, hein. C'est-à-dire que notamment sur la terre, il y a le droit coutumier que tu viens de citer, mais aussi l'interdiction pure en droit coutumier autochtone d'être propriétaire de la terre. On partage la terre, on l'a en usage collectif, mais on ne la possède pas, en tout cas pas à titre individuel, ce qui fait qu'ils ont réussi à tenir ensemble, à rester soudés, à conserver leur identité. Et ça m'a permis, en fait, c'était un peu comme faire de l'anthropologie juridique, c'est-à-dire qu'en fait, si j'ai regardé eux, leur civilisation, leurs coutumes, mais c'était surtout, je me suis dit, en miroir, waouh, mais l'image que ça renvoie de notre monde quand on comprend et qu'on commence à comparer, en se disant, mais en fait, voilà pourquoi ils ont créé ce droit, voilà pourquoi ils ont développé ces idées. Bon, et bref, on a gagné contre Montagne d'Or, ça c'était plutôt chouette. Et je suis rentrée en France en me disant, bah voilà, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai envie de faire en sorte de faire évoluer le droit de l'environnement. Disant, un jour, je serai probablement avocate. Avant de devenir avocate, je fais changer le droit de l'environnement et ensuite je m'inscris au barreau et je les poursuis tous. Bon voilà, c'était une rupture amoureuse pour mieux se retrouver.
Une vraie rencontre en tout cas. Voilà. Peut-être deux mots quand même sur ce qu'est ton ONG Wild Legal.
Donc Wild Legal, ça a été pensé avec des gens avec qui je travaille et que je respecte énormément, des experts comme Valérie Cabane, qui est une juriste internationaliste qui travaille sur les crimes d'écocide, William Bourdon, qui est un avocat spécialisé en criminalité économique. Et on s'est dit, voilà, comment on crée un outil juridique et pas, enfin, une association qui fait pas juste du plaidoyer ou des actions, mais qui pense ses actions comme un catalyseur, c'est-à-dire à la fois enseigner ce mouvement des droits de la nature, faire en sorte que les idées qui émergent dans le monde autour du droit des peuples autochtones, d'autres visions juridiques, elles puissent être amplifiées en France pour qu'on puisse transmettre ça. Et puis, bah, que ce soit un incubateur, c'est-à-dire que nous, on ne sait pas encore comment on peut tout faire au niveau français pour faire évoluer les choses. Politiquement, je ne vous cache pas que l'horizon n'est pas extraordinaire. Hein. Et donc, comment on fait pour utiliser ces principes qu'on connaît en matière de droit de l'environnement, repenser l'éthique environnementale, etc. Et développer donc à la fois un accompagnement pour des acteurs de terrain. On accompagne des parcs, des réserves, des syndicats de gestion de l'eau, plein de gens extraordinaires qui aujourd'hui sont vraiment actifs dans la défense des milieux naturels. Et puis en même temps, on se fait plaisir, on fait quelques procès, dont un contre l'État français. Justement, il y a un petit actu, c'est que peut-être que vous avez vu, Emmanuel Macron est en Guyane, enfin, on vient de partir de Guyane, et nous, on a déposé le 19 janvier dernier un recours contre l'État français pour carence dans la lutte contre l'orpaillage illégal, pour violation des droits humains, mais aussi, et c'est la première fois qu'on tente ça en France, pour violation des droits à la santé d'un fleuve, qui est le fleuve Mahoni, et qui meurt, en fait, littéralement, à cause des activités minières intensives. Et donc, voilà, on essaie de rentrer par tous les biais possibles pour faire bouger les lignes pour la nature.
Ça, je trouve ça super intéressant, parce que tu touches aussi à la transformation du droit, parce que vous travaillez à créer des personnalités juridiques, à donner des personnalités juridiques à des écosystèmes qui n'en ont pas aujourd'hui. Super, merci beaucoup, Marie. Merci. Moi, j'ai travaillé dans l'alimentaire un moment, sous différents aspects, dans la distribution et dans la production d'une boisson. Et à aucun moment, j'ai eu l'idée qu'on pouvait faire différemment. Donc quand je t'ai rencontrée, je me suis vraiment trouvée très très nulle, parce que j'ai essayé de faire le mieux possible, mais jamais je me suis dit qu'on pouvait complètement transformer la chaîne amont. comme vous l'avez fait. Donc, je voudrais que tu nous racontes d'abord ce que c'est qui le patron, ce mouvement qui te dépasse. Tu vas me reprendre 10 fois, je pense. Et comment on peut en venir à cette idée qu'on a le droit de tout réinventer dans la chaîne de production pour qu'elle fonctionne.
Alors, bonsoir à tout le monde. Tellement honoré d'être avec vous, effectivement. Et, la première des choses à dire, là, ça nous fait faire un effort de réflexion, en fait. C'est ce qui s'est passé dans le podcast, parce que nous, et je dis bien nous, on a toujours été un collectif de consommateurs. On a fait les choses un peu instinctivement. Il n'y avait pas de recette, il n'y a jamais eu de business plan, de stratégie. Donc, on n'a pas eu de directeur financier pendant 3 ans et demi, par exemple. On ne savait pas vraiment ce que ça... Vraiment, on ne savait pas ce que ça... Il y avait des millions de produits qui se vendaient. Parce qu'en fait, c'était ailleurs, notre boussole était ailleurs. Mais à un moment donné, c'est les journalistes, effectivement, qui vous disent, mais comment ça s'est passé? Et là, il faut faire un effort, parce que tu dis, mais en fait, il n'y avait pas une recette. Donc, tu dois essayer de réfléchir. Et tu commences un peu à trahir cette énergie un peu très spontanée qui a fait qu'à un moment donné... Bah, tu t'es rien dit de particulier à part, et vous l'avez tellement dit, c'est pas possible que les choses soient comme ça, quoi. Sans plus, alors avec plus ou moins de force, mais... Alors la question, nous, à l'époque, on est donc un collectif de consommateurs, hein, je pense que c'est des sociétaires, peut-être, ici, mais je parle au nom de tous, vraiment, et on avait déjà fait les gueules cassées, ce sont les fruits et légumes avec des petits défauts d'aspect. On apprend qu'un jour, ces légumes, avec des défauts de forme, de couleur, sont écartés et jetés, alors que tout aussi bon. Et puis, il y a une image qui arrive, 10 millions de tonnes en France jetées chaque année. On ne voit pas un estomac humain. Et là, à Wembley, les Anglais font un calcul, on l'a repris pour la France. Ça fait quoi, 10 millions de tonnes? Et en fait, ça fait le stade de France rempli à ras-bord. Chaque année, avec le calcul des tribunes.
Un tiers, je crois, un tiers des fruits et légumes qui finissent, qui finissent à la poubelle.
40% de la nourriture produite dans le monde ne voit pas un estomac humain. Ça veut dire autant d'eau et la nature, évidemment, partie prenante de cet immense gâchis, etc. Alors là, je suis dans le. Mais je vais accélérer pour arriver à C'est qui le patron. L'initiative des gueules cassées est présentée à l'ONU parce qu'il y avait eu un article sur le New York Times sur cette initiative française de consommateurs. Et voilà comment tout démarre. Je discute avec un conseiller d'un ministre qui va présenter à la FAO l'histoire. Et à la fin, ce monsieur, conseiller de Stéphane Le Foll, je crois, ou de peut-être Bruno Le Maire à l'époque, était, je ne sais pas quel ministre, on les oublie tellement vite. Donc, me dit, mais vous les consommateurs, est-ce que vous auriez une idée? Les producteurs de lait sont dans une situation dramatique, alors je le savais un peu, mais est-ce que vous n'auriez pas une idée pour les aider? Alors, c'est très étonnant parce que c'était quand même plutôt à lui de trouver éventuellement des solutions, mais c'était très moderne à la fois de poser la question. Et je me rappelle avoir dit, mais attendez, combien il manque sur un litre de lait? Combien il manque sur un litre de lait pour qu'un producteur gagne sa vie? Ils n'avaient pas la réponse. C'est très important de se rendre compte de ça, c'est qu'ils n'étaient pas passés par ce chemin-là. On fait une enquête, 8 centimes apparaissent. 8 centimes par litre, 8 centimes par litre. Combien on boit de litres par an et par habitant? 50 litres. Et c'est là qu'apparaissent les 4 euros par an. Donc moi, au téléphone, cette émotion, moi, je ne l'oublierai jamais, je me dis, attends, tu refais le calcul, tu dis 4 euros par an pour que des producteurs, des gens qui nous nourrissent tous les jours, arrivent à se nourrir eux-mêmes et à nourrir leur famille.
Si chacun d'entre nous dépensions 4 euros de plus sur notre budget de laitage,
on sauverait évidemment toutes ces familles exemplaires que je connaissais par ailleurs, travaillant du 7 jours sur 7. Vous vous rendez compte, 300 euros par mois pour la plupart, pas de vacances. Vous vous rendez compte qu'il y a un peuple sur Terre qui nourrit, enfin une population qui nourrit tous les autres et qui est non pas la plus protégée et la plus... respectée même, c'est celle qui ne gagne pas sa vie. Voilà comment est apparu dans cette discussion. Et là, ça chemine un peu. Les idées, je crois, enfin, bon, elles sont dans un coin comme ça. On sent qu'elles sont pas loin, mais on ne sait pas vraiment comment ça peut se passer. Et puis, effectivement, moi, ça m'arrive comme ça, en pleine nuit, 4 heures du matin, noir complet, un plafond, un miroir très proche de ce qu'on ressent à ce moment-là. Et je me suis levé, je me suis dit, 4 euros par an, il faut que nous, consommateurs, on crée nos produits, quoi. Puisque cette équation, ce logiciel n'était pas chez les grandes marques. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un ressort qui est tendu. Et une bonne nouvelle, c'est qu'une bonne idée, elle n'est pas chez quelqu'un. Elle est chez tout le monde, quasiment en même temps. Il faut arriver à faire vibrer cette espèce de fréquence qui fait que tout le monde se dit, et on le vit tous, mais c'est évident, mais ça n'existe pas, ça. Donc une bonne idée, elle n'est pas chez quelqu'un, elle est chez tout le monde. Il faut arriver à ce qu'elle devienne une réalité. Après, quand vous avez la transformation de la vie des producteurs, votre énergie de départ, elle devient phénoménale. Elle est inarrêtable. Vous avez des gens qui retrouvent le sourire, qui peuvent transmettre leur ferme à leurs enfants. Qu'est-ce que vous voulez après? Vous n'êtes pas... Alors nous, on a tout neutralisé. Il n'y a pas d'argent en jeu. C'est une coopérative. On a renoncé à tous nos droits. Je ne serai pas jamais riche comme un entrepreneur ayant une bonne idée. Et c'est une volonté depuis 30 ans. Mais à la fois, ça permet de faire de belles histoires collectives qui nous rendent tellement plus riches qu'on ne l'aurait été de cette triste façon parfois. Voilà.
Pour préciser, vous avez été 1, 2, 3, puis 12 000. 12 000, c'est ça, hein, la dernière fois que j'ai compté. 12 000 consommateurs qui ensemble...
16 millions, ouais. En fait, il y a 14 000 personnes dans la COP.
14 000, donc c'est plus
de 14 000. Et ceux-là, j'espère me faire représentant de leur voix, parce que c'est... On a tous une voix, on vote collectivement, on crée tous les produits, on protège les producteurs en premier lieu, et on dit au distributeur, voilà monsieur, la brique est donc à 0,99, voilà, vous allez gagner à peu près ça, la laiterie gagnera ça, et nous, consommateurs, on vous dit finalement que... À ce prix-là, ça nous convient. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et maintenant, on est 16 millions de Français. Il y a un organisme qu'on ne veut pas payer parce qu'on essaie de garder tout l'argent pour les producteurs, et qui s'appelle Nielsen, et qui nous offre des études en disant, vous vous rendez compte, un Français sur quatre achète des produits solidaires. Et nous, ce n'est pas des chiffres dans ce cas-là, franchement. C'est qu'à l'autre bout, ça crée des millions de sourires qui transforment les chiffres en très bonnes nouvelles.
Donc c'est le lait, c'est le beurre, c'est des compotes, c'est plein de choses ce matin. Le lait,
c'est les voitures, les TGV.
Non, pas bientôt. Ça, c'est l'année prochaine, on se retrouve l'année prochaine. Et juste quand on parlait de réinvention, vous avez choisi de ne mettre aucun merchandiser dans les rayons, de ne faire aucune pub télé là où Lactalis et les autres dépensent des millions dans les pubs télé, pour que cette chaîne-là fonctionne et qu'effectivement l'argent puisse bénéficier aux producteurs.
Un mot, ça montre que c'est possible, hein. Pas vraiment, ne voyez pas, moi je ne suis pas entrepreneur avec une recette en train d'expliquer qu'on est des génies de l'entrepreneuriat, je vous fais le compte-rendu de ce qui s'est passé, pas de pub à la télé, pas de commerciaux dans les magasins, pas de force de vente, du bouche à oreille, du bon sens, de la bienveillance collective qui s'empare du sujet, aujourd'hui 100 millions de produits par an, tous solidaires, hein, pas des produits pas chers vendus en quantité, c'est devenu, et ça, quelle victoire pour la bienveillance collective, la brique de lait la plus vendue de France, les deux Borbiaux les plus vendus de France, et ça montre qu'un autre chemin absolument lumineux est possible.
Bravo. Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi dans toutes vos histoires, c'est que vous avez eu cette idée lumineuse, parfois par des rencontres, parfois par un réveil lumineux au milieu de la nuit. Cette idée, vous l'avez évidemment concrétisée avec, en passant par toutes les étapes difficiles que tu commençais à décrire, Ada, aller pitcher, aller chercher des sous, aller convaincre. Mais à un moment, au-delà de ça, vous l'avez transformé en mouvement. Et c'est vrai de vous tous, parce que toi, tu aurais pu faire un film, Flore, comme tout le monde. Et non, tu en as fait un mouvement. Donc c'est vrai jusque dans un produit culturel. J'aimerais vous entendre là-dessus. Et là, tu viens nous en faire la démonstration, parce que tu incarnes le mouvement. À quel moment est-ce que vous avez vu que pour que le projet se déploie pleinement, il fallait s'appuyer sur l'ensemble des citoyens, le plus possible ? Et comment ça vous a fait construire un projet qui reposait, non pas sur une petite équipe, mais sur nous tous. Et peut-être Flore, ouais. Si tu veux commencer.
Je suis vraiment, mais tellement contente de vous rencontrer, ça fait bien. Je faut acheter le livre, hein, parce que enfin, moi, là, il y a une énergie. Bon, effectivement, enfin, moi, je ne me suis pas dit, je vais créer un mouvement. Je suis partie avec, effectivement, après bien des chemins et des livres, etc., à un moment où je me suis... où, effectivement, j'ai eu une rencontre amoureuse avec une idée suggérée par mon fils, puisque ça faisait des années que j'essayais de prévenir les adultes pour qu'ils aient le même sentiment de panique que moi sur le toit de mon bureau le jour du 11 septembre, et que ça marchait pas, en fait, que j'arrivais pas à convaincre les adultes de bouger, que j'étais face à des gens, je comprends très bien, mais qui étaient trop confortables quelque part. Et donc je me suis cognée à mon impuissance. Je pense que c'est quelque chose peut-être qu'on a vécu aussi. Mais c'est fertile, en fait. Et la personne qui est venue me mettre le nez dedans, c'est mon fils, qui avait 7 ans à l'époque, et qui m'a dit « Maman, ça veut dire quoi? La planète va mourir, et qu'est-ce que je peux faire, moi ?» Et c'est la question la plus importante, puisqu'il m'a, les Américains diraient « engineered », ça m'a poussée à l'action, puisque je me suis dit « Mais en fait, il y a, un, les adultes, ça ne marche pas, et deux, il y a cette génération qui arrive, pour laquelle il n'y a personne, en fait. » Les gens qui parlent à nos enfants aujourd'hui, c'est des influenceurs, c'est des marques, c'est des parties d'extrême et c'est quelques profs courageux. Mais sinon, pour expliquer ce qui se passe, pour donner, voilà, c'est une pétus, je crois qu'on a tous, ben, et parfois il y a des parents, mais je veux dire, il n'y a plus de culture de société là-dessus. Et donc voilà, c'est ce qui m'a lancé. Et en fait, ça c'est devenu, il a planté l'idée. Et à partir de là, tu as parlé de fréquence tout à l'heure. Moi, je pense que j'ai pris l'échelle. Et je suis un... Voilà. Parce que tout à coup, c'est une idée qui... Tu as tout à fait raison. Les idées, elles sont partout. Moi, je suis assez fan de cette idée que les idées viennent chercher des personnes pour s'incarner, en fait. Et moi, ça a marché chez moi, en tout cas. Et du coup, bah, chaque étape de ce projet, que ça soit le fait de... créer le film, de partir en tournage, de rencontrer ces personnes qui sont les maxi inspirants pour moi, enfin c'est mes guides, qui ont entre 18 et 25 ans, quelque part, il y a quelque chose qui se transmet, en fait, de l'ordre de l'oralité d'ailleurs, et qui est des choses dites, mais aussi des choses inconscientes, et qui sont de l'ordre du rapport au monde. Les Américains parleraient de l'agency. Qu'est-ce qui nous fait tenir? Quelle est cette ossature qui fait qu'on devient un peu... c'est pas d'époque, mais disons la poêle téflon du moment, quoi. Enfin, je veux dire, on tient, quoi. Et c'était pas du tout une bonne métaphore. Complètement naze. Non, mais je sais pas. Mais vous voyez ce que je veux dire. Non, non, mais en plus, en ce moment, exactement, je me suis dit, non. Non, mais le fait de tenir, quoi, tu vois, le fait d'être solide et d'être robuste, voilà, Olivier Alamand, voilà, d'être robuste. Et en fait, donc moi, j'étais forte de cette expérience avec mon fils, avec ces personnes que j'ai rencontrées, la magie du film, la rencontre, je crois que c'est important, je suis sûre que ça nous lie une expérience d'une certaine beauté, en fait. Mais avant tout, la beauté de l'humain, dans votre métier, dans ce que vous faites, il y a ça, et si on faisait ça, quoi. Moi, ce qui m'a fait que c'est qu'aujourd'hui, donc effectivement, mon film s'appelle Bigger Than Us, ça fait 2 ans et demi qu'il est sorti, ça fait 2 ans et demi qu'on me dit passe à autre chose, dans mon milieu qui est le milieu du cinéma, et ça fait 2 ans et demi que je leur dis, t'as rien compris. Sauf qu'au début, j'étais vraiment comme un chien dans un jeu de quilles, et c'est hyper agressif d'ailleurs, et qu'aujourd'hui, je m'en fiche, quoi. 4500 projections, 550 débats, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et surtout, ce que je vis, c'est pas la question du chiffre, c'est que vous avez remis de la joie et du possible chez des personnes dont tout le monde se fichait. Ben moi, c'est un peu pareil avec avec la jeunesse, en fait, que je vois arriver en salle de cinéma ou en salle de cours avec les pieds en dedans, démoralisés, éco-anxiété, nanani, nanana. Je veux dire, c'est vrai qu'on passe pas notre meilleure vie, là, en ce moment. C'est un peu compliqué, quoi. Donc, et en fait, le film, c'est juste un outil, en fait, et qui déclenche quelque chose. Et je me suis dit que, finalement, depuis le 11 septembre, je cherchais cet outil. Je cherchais un outil qui fasse partager, finalement, un puissant désir de vivre. Et que ça, bah, j'ai jamais eu quelque chose d'aussi puissant. Je sais pas si c'est un mouvement. Je sais juste que c'est un outil
qui crée un espace de sécurité pour qu'on se rencontre, comme ce soir, et les livres ont cette magie-là aussi, pour qu'on se parle et qu'on accepte de parler de nos vulnérabilités, et du coup de nos rêves, et du coup de nos possibles, et du coup des... En fait, c'est un outil de connexion. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais sur cette distraction, quoi, comment tout est fait aujourd'hui pour qu'on ne se parle plus, pour que le droit joue à contre, pour que même l'individu... Enfin, voilà, tout est à contre, en fait. Et il y a la question du mouvement, j'en sais rien, encore une fois, si c'est un mouvement, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse, mais auquel je ne peux plus ne plus appartenir. C'est-à-dire, je ne peux pas faire autre chose que de pousser au plus loin cette idée, parce qu'en fait, elle est hyper fertile. Il y a plein de trucs qui se passent derrière que je ne suis pas capable de poser dans un business plan et aller voir une chaîne en leur disant... En fait, et maintenant, j'ai lâché sur le fait de contrôler quoi que ce soit. Et je crois que c'est vraiment le luxe absolu dans l'époque dans laquelle on est, en fait.
Et je préciserai, tu l'as dit rapidement, hein, quand tu parlais de 4000 projections, je préciserai que Fleur fait le tour de toute la France, ouais, et aussi à l'international. Maintenant.
Alors, je ne prends plus l'avion, ou pas, peu, pas beaucoup en tout cas. Donc, non, là, mon terrain de jeu, c'est surtout la France, mais le film Voyage est à 57 pays. Mais, et c'est essentiellement en milieu scolaire et universitaire. Et de plus en plus, dans les entreprises. Et ce qui est très beau, c'est que... Moi, j'ai l'impression de mettre ma petite brique pour que toi, derrière, tu passes, pour que toi, derrière, tu passes. Enfin, parce qu'en fait, moi, je suis juste la brique changement culturel. N'empêche que si on bouge ça, après, c'est beaucoup plus facile de rendre acceptable, en fait, une autre façon de percevoir, de noter, de poser un prix, de considérer telle ou telle profession. Et donc, moi, je fais juste ce maillon-là du truc.
Et derrière chaque projection, il y a des Q&A, et tu es là, et tu parles.
Alors, je ne suis pas partout, parce que 4500 projections, non, mais j'ai fait, ouais, effectivement 550 débats en 2 ans. C'est quasiment tous les jours. Et c'est comme si j'avais les doigts dans la prise, en fait. D'ailleurs, ça doit se sentir, non ? Parce qu'en fait, tous les jours, je vois vos enfants. Et tous les jours, et c'est merveilleux. Je sais pas comment vous dire. C'est merveilleux de voir à l'œil nu des yeux fatigués, ou en tout cas, je dirais pas, je les retourne, c'est pas vrai, mais voir que d'abord il y a d'autres jeunes qui font des choses, qu'il y a d'autres façons de considérer ce qui se passe et qu'il y a une place pour eux. Ça, c'est énorme.
Merci, Flore. Ça va être l'occasion d'expliquer bien, ouais, ce que fait Banlieue Santé, parce que on va comprendre comment c'est grassroots.
Avec plaisir. Non, je ne sais pas si c'est un mouvement. Ce que j'avais en tête, c'était de créer du leadership distributif, parce que j'avais envie que, en fait, les patients se saisissent de la question de la santé. Surtout parce que je me suis dit que la solution, c'est pas moi, c'est eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite pensé à réfléchir un peu comme l'écosystème de la mer, en se disant que la mer, l'océan, et de créer le plancton, qui sont en fait des habitants des quartiers populaires, des zones rurales, qui vont être en première ligne des inégalités et former les autres. Et en fait, j'ai créé cette initiative Banlieue Santé. En fait, souvent, les journalistes, quand ils m'appellent, « Ah, vous êtes l'infirmier des quartiers, vous êtes l'infirmier des banlieues. » Donc ce vieux cliché, souvent assez réducteur. Je leur dis « Non, non, est-ce que vous connaissez la définition de banlieue ?» Banlieue, c'est lieu banni, donc c'est le verlan de ban et lieu banni, la mise au ban. Toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun. Et en fait, au XIVe siècle, les rois mettaient les personnes atteintes de lèpre, de peste, les indigents, dans des lieux bannis. C'est là où aussi on paye les impôts, etc. Donc... En fait, la dimension pour moi anthropologique, elle était et historique, elle était importante pour aussi remettre du contexte. En fait, on s'est rendu compte que 90% des patients qu'on amène, ils avaient besoin d'un appareillage en lunettes. Ils n'auraient jamais été voir un ophtalmologue ou un opticien pour des raisons qui sont le dépassement d'honoraires, le surcoût d'un verre correcteur, parce que plus le verre est complexe, plus le coûte cher. enfin plus pardon, la vue est complexe, plus le verre coûte cher. Et puis aussi, en fait, les 10% qui suivent, en fait, ils avaient besoin d'avoir un suivi beaucoup plus poussé. C'est-à-dire qu'on a détecté chez les 10% autres des rétinopathies diabétiques, des cataractes, des glaucomes, des cancers, etc. etc. Et en fait, notre action, elle est aussi dans cette approche de dire aussi, on va permettre les réductions des inégalités, mais la réduction aussi des coûts de santé. Et en fait, souvent, on pense qu'en mettant tout le paquet sur l'action de la prévention, ce que fait RADA et d'autres, et ben, en fait, on pense qu'on dépense plus, alors que pas du tout. On va gagner en année de vie chez les patients, et en fait, on va gagner en qualité de soins pour tous. Et puis après, on a mis en place des actions plutôt sucre lent, parce qu'on avait envie de se dire que finalement, ok, après avoir fait les actions sucre rapide, qu'est-ce qu'on amène de plus pour qu'eux puissent être accompagnés dignement dans la santé. Donc on a développé des lieux de vie comme le Café des Femmes en pied d'immeuble, mais aussi on est en train de développer des centres de santé participatifs. Et en fait, on s'est rendu compte que en fait, les patients, quand tu prends le temps de les écouter, eh ben, ils te disent des choses qu'ils ne diront pas chez le médecin parce que ben, ouais, les médecins sont de plus en plus débordés, les pauvres. Et puis en plus, quand ils sont payés 23 ou 24 euros de la consulte, moi je trouve que c'est aberrant dans le système dans lequel on est. Et donc nous, notre enjeu, c'était de dire, en fait, nous, on va créer des moments de convivialité pour que les gens s'expriment et que grâce à l'expression de leurs mots, on va pouvoir trouver des solutions à moyen et long terme sur leur santé. Et donc, ouais, Banlieue Santé, en fait, c'est vraiment une organisation un peu ovni. D'ailleurs, je me rappelle d'une discussion assez lunaire. On m'avait convoqué à l'Elysée en 2020 pendant le Covid. Et comme je passais souvent à la télé, on m'a dit « Mais vous êtes qui, vous ?» Je lui dis « Ben, je suis financé par votre ministère. » Et c'est assez marrant parce que, en fait, oui, on est un peu venu de nulle part, mais pas du tout de nulle part, parce qu'en fait, on vient du terrain, on vient des gens, on vient des habitants. Et c'est ce qui a fait notre force.
Moi, ce que je trouve aussi très intéressant et quelque part une base commune dans ce que vous décrivez tous les deux, c'est la capacité qu'a ton association à donner du pouvoir aux gens. Toi, tu donnes du pouvoir aux enfants en leur montrant que tout est possible et que tout est transformable. Et à Banlieue Santé, tu leur rends le pouvoir aussi dans tes sucres lents, comme tu dis, de pouvoir exprimer leurs besoins en termes de santé. Vous arrivez avec un corps médical par certains aspects, mais vous êtes aussi là pour faire co-définir des politiques de santé par les habitants et les autres partenaires. Et là, tu es vraiment dans cette idée de donner le pouvoir.
Ouais, d'ailleurs, je vais faire rapidement. En fait, la question, elle s'est posée tout de suite en essayant de creuser sur nos idées de lancement de ce qu'on voulait faire. Et comme RADA, en fait, au tout début, pendant 10 ans, en fait, on m'a pris pour un fou. Parce que l'asso, je l'ai créé en 2018, mais en fait, ça faisait 10, 15 ans que je me battais pour essayer de faire des trucs, faire des initiations à la santé, pour aller voir les maires. Et en fait, tout le monde me fermait la porte, tout le monde me disait, mais va voir ailleurs. Si j'y suis. Et en fait, je ne désespérais pas. Ça, pour moi, pour le coup, c'était quelque chose qu'on m'a éduqué chez mes parents. C'est ne désespère jamais. Quoi qu'il arrive, vas-y, fonce. Et ça m'a amené à créer cette organisation, mais aussi d'autres organisations aujourd'hui qui sont en train de monter. Et en fait, on est passé dans notre réflexion que le point commun de tout ça, c'était les femmes. Et donc, on est passé par les femmes. Donc, on a créé un programme qui s'appelle Femmes Ressources, parce que les femmes sont en première ligne des inégalités sociales. Elles sont celles qui portent le poids de la vie, portent la vie. Et elles sont la résolution aux inégalités sociales. Et quand vous avez 50-60% de la population mondiale qui sont des femmes et qui mettent le reste au monde, je peux vous dire que vous avez intérêt de vous poser la question où est-ce qu'elles doivent avoir leur place dans la société. Et je pense que leur place dans la société, c'est vraiment de porter ce flambeau pour agir. Et c'est ça, en fait, le projet Banlieue Santé qu'on porte aujourd'hui. C'est un projet porté par des hommes et des femmes qui ont envie, finalement, de remettre du droit commun, du droit à la santé, de la justice sociale, du respect, de la dignité, parce que nous, on ne quémande pas, on n'a jamais mendié, on ne mendiera jamais, parce que souvent, on nous dit, ouais, non, je ne demande pas, moi, je produis, je fais, et je démontre scientifiquement, je qualifie, et après, je viens de voir. Et je crois que c'est important, parce que, parce qu'on fait de l'associatif, ben, en fait, on est dans la charité. Oui, certes, il y a une forme de charité, mais on peut produire quelque chose de formidable dans l'associatif. On peut produire de la richesse, on peut produire des projets qui, pour moi, créent de l'emploi, créent beaucoup de choses pour moi. Je pense que c'est important de le dire en France.
Marine, si tu veux bien, je veux bien qu'on parle d'un bout de ce que tu fais à Wild Legal. Parce que tu t'as parlé, tu as évoqué les procès, les formations de juristes, qui sont là aussi plutôt dans la ligne sucre rapide, on va dire. Mais si j'ai bien compris, vous avez aussi une école qui est là pour nous responsabiliser tous. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont tu nous en as parlé, parce que tu éveilles dans chacun d'entre nous le lien qu'on a avec des paysages qui nous sont chers et qui nous constituent. Et l'envie qu'on peut avoir de les défendre, et tu nous donnes les moyens pour les défendre légalement. Est-ce que tu peux nous parler de ton école? Et c'est ça ce que j'appelle faire mouvement à nouveau, c'est-à-dire comment est-ce que tu t'appuies sur nous tous pour pouvoir mener à bien les actions de Wild Legal?
Oui, en fait, cette réflexion autour de l'école, alors c'est né pour plusieurs raisons. D'une part, parce que quand vous passez 3 ans à vous battre contre un projet minier d'une ampleur aussi pharaonique que Montagne d'Or. Ensuite, juste après, on s'est pris Total, qui s'est dit, tiens, Kourou, c'est pas mal pour aller chercher du pétrole. 3 ans comme ça à faire des nuits blanches, des communiqués qui commencent toujours par non, et à être toujours en fait en contre, à lutter et à batailler pour tout. Moi, j'avais besoin d'un truc positif. Vraiment, mais biologiquement parlant, c'est-à-dire que j'avais mis tellement d'énergie contre des choses que je me suis dit, mais la réflexion de base, c'était, il faudra toujours des gens pour tenir la muraille, ça c'est évident. Par contre, il faut déjà commencer à construire le monde qu'il y a derrière le mur, pour que le jour où on n'a plus besoin de ce mur qui nous sépare de ceux qui veulent détruire le vivant, on ait déjà quelque chose qui soit là. Bon, c'est assez imagé, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai, qu'on crée nos oasis derrière ces grands murs pour tenir et faire en sorte qu'on détruise pas, enfin qu'ils ne détruisent pas tout ce qu'on a, quoi. Et donc, et c'est un sentiment que j'ai encore vraiment beaucoup aujourd'hui. Et donc, l'idée derrière, c'était de dire, la première étape, si on veut massifier, c'est qu'il faut planter une graine dans la tête des gens. Et je trouve que le mouvement des droits de la nature, pour ça, il est extraordinaire. C'est qu'une fois qu'on a compris, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu vraiment comme un déclic en Guyane. Je dis, en fait, ce truc de dire la nature est une personne et a des droits fondamentaux, c'est d'une part absolument normal sur le plan éthique, une fois qu'on l'a... Et surtout quand c'est mis en perspective avec notre propre histoire, l'histoire des femmes évidemment, mais l'histoire des esclaves noirs, l'histoire des peuples autochtones. Je ne sais pas si vous avez lu la controverse de Valladolid, mais c'était toute l'histoire même de la colonisation. C'était, sont-ils des hommes? Sont-ils des personnes? Est-ce qu'ils ont une âme? Est-ce qu'ils ont des droits, du coup? Et cette question qui est derrière, c'est en fait la question de se dire, mais... comment on élargit les frontières de notre société, pas uniquement pour nous les êtres humains, mais aussi pour faire rentrer ces autres qu'humains dans notre société. C'est ça aussi, massifier le mouvement, c'est faire en sorte que notre propre horizon de pensée devienne gigantesque par rapport à ce petit bout qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment ôter les lunettes qui nous rendent complètement myopes sur notre vision du monde. Et c'est ça que je trouvais extrêmement fort, c'est grâce à l'école, d'une part, on aborde les questions philosophiques et éthiques, notre relation au monde, ce changement, c'est presque une révolution cartésienne. On est vraiment dans une idée qu'on doit totalement shifter dans notre rapport éthique et juridique au monde. Et du coup, il y a aussi quelque chose qui est très inspirant dans le mouvement des droits de la nature, c'est tu peux être d'accord sur l'idée, te dire pourquoi pas, sauf que tant que quelqu'un ne l'a pas fait, ça devient extrêmement difficile de le concevoir. Et ce que je trouvais extraordinaire, c'est que nous, on est arrivés dans un moment où c'était pas très connu encore, mais il commençait à y avoir toujours plus de décisions, de textes de loi, de nouvelles constitutions qui étaient en train d'émerger partout dans le monde. Et donc, on a eu la chose beaucoup plus facile que ceux qui commençaient en 2008 en Équateur. On est arrivé à un moment où on avait de la matière, on pouvait déjà montrer que ça marchait, qu'il y avait plein de pays qui étaient en train de le faire. Et en fait, ça, c'est puissant, parce que dès que vous montrez que d'autres sont en train de le faire, ça devient vachement plus difficile de vous dire c'est impossible, madame. Et donc, alors, je ne vous dis pas que ça a été facile tout de suite, parce que quand on arrivait avec ces sujets et qu'on disait aux gens, il faudrait reconnaître des droits à des fleuves, à des forêts, et non, regardez, vous êtes complètement barjots, hein, pour vous faire soigner. Et aujourd'hui, c'est fondamental ce qui est en train de se passer et ce qui fait le mouvement, en fait, c'est qu'en plantant quelques graines ici et là, en travaillant un peu avec des acteurs clés et surtout dans des réseaux, de gens qui sont sur le terrain, qui constatent que ça ne marchera pas, que c'est impossible. Ce qui m'a, par exemple, plu, c'est une rencontre avec le réseau des réserves naturelles de France. Il y a des centaines de réserves naturelles en France. C'est des confettis un peu partout sur le territoire. Je suis allée les voir et je me suis dit, mais en toute honnêteté, est-ce que vous pensez que les droits de la nature, ça pourrait vous aider? C'est le statut le plus protégé en droit français. Donc je me suis dit, en toute humilité, ça se trouve, ça ne servira à rien pour eux, parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut. Et bien, sur le coup, ils ont réfléchi, et ensuite, ça fait depuis 2 ans qu'on travaille ensemble, comment on développe des outils, parce qu'en fait, ils travaillent avec toutes leurs intercommissions, et bien, autant sur la question de l'éducation et du rapport à la nature, ça leur parle, parce que pour former les jeunes à un nouveau message, ça permet d'envisager sa position, non pas en tant que petit gestionnaire de milieu, mais en tant que gardien, en tant que responsable de milieu naturel. C'est vrai dans le rapport de force avec les élus, la gouvernance, ils se sentent dépossédés. En fait, on leur dit, vous êtes un gestionnaire, laissez les élus décider, s'il vous plaît. C'est non, je ne suis pas gestionnaire, je suis gardien de ce milieu naturel, j'ai sa responsabilité, je suis son tuteur légal, et donc vous allez respecter mes décisions. Ce qui est extrêmement puissant, en fait. On sentait qu'ils avaient besoin de nouveaux outils. Et puis, c'est vrai pour les scientifiques, ils se sont mis à réfléchir avec nous aussi. J'ai passé l'après-midi avec François Sarano, qui est un océanographe extraordinaire. Ouais, mais parce qu'on se dit, mais comment on fait? Vas-y, on fait quelque chose. Toi, tu connais la mer, tu connais la science. Moi, je connais le droit. Travaillons ensemble. Et comme ça, toute l'idée derrière, c'était de dire comment on construit un droit biomimétique. Un droit qui nous unit, nous, humains, mais qui nous unit avec la nature aussi. Et donc, à partir de là, c'est, en fait, on a tout pour construire un mouvement, parce que toute l'idée, elle est basée sur comment on fait ensemble, comment on fait du lien. C'est vraiment l'idée de droit de la nature, c'est passer par le prisme du lien. Et donc, en fait, on ne peut même pas penser la chose sans penser la relation aux autres.
On voit tout ce que ça génère comme question philosophique, anthropologique, c'est énorme. Et je voudrais juste insister sur une chose, c'est que tu t'adresses, tu le disais, à des parcs naturels, à plein de gestion d'écosystèmes, mais tu t'adresses aussi à nous.
Ah oui.
Ça, je trouve ça génial.
Non, mais c'est vrai.
En fait, oui. Intellectuellement, je trouvais ça vraiment génial que tu nous, là aussi, que tu nous donnes le pouvoir à chacun d'entre nous d'être défenseur, d'être gardien.
Oui, parce qu'en fait, il y avait un constat aussi, c'était que la théorie juridique, la plupart des gens, pas forcément, enfin, c'est quelque chose de très abstrait et pas forcément manipulable. Quand vous dites à quelqu'un, en revanche, mais tu es gardienne, tu es gardien du milieu dans lequel tu vis, là, la personne commence à se demander, ok, mais comment moi je peux être gardien de ces droits d'un autre être humain? Donc, en fait, l'outil juridique, il est d'une puissance extrême. D'ailleurs, nul n'est censé ignorer la loi. Hein. Et donc, quand on en fait un vrai outil, et c'est aussi parce que par mon parcours, hein, sur le terrain, les gens avec qui je travaillais, énormément de gens à la retraite qui avaient appris par cœur le code du littoral, le code minier, c'est impressionnant. Il y a des gens qui n'ont aucune formation juridique et qui, une fois à la retraite, se mettent à batailler comme des fous pour se jeter dans les luttes environnementales, etc. Des jeunes aussi qui utilisent ces outils. Et la vraie question, c'est comment ça se fait qu'on s'est laissé déposséder de ce droit qui est vraiment notre outil le plus légitime en tant que citoyen. On ne participe plus à l'élaboration de la loi, on ne participe plus à sa bonne application. Enfin, à un moment, il faut dire stop, et il faut refaire aussi un droit qui est un vrai outil de rapport de force pour le citoyen, et pas simplement, finalement, un outil pour les industriels, pour nous imposer des projets dont on ne veut plus. Donc, il faut retourner le rapport de force, et ça, si on veut un jour espérer que, justement, ceux qui défendent la nature ne soient pas dans l'illégalité, c'est le constat actuel, malheureusement, bien qu'on refasse non pas l'effort de tout détruire, mais qu'on se dise, mais comment on shift aussi le droit pour qu'il soit plus juste vis-à-vis des gens, vis-à-vis des non-humains et des humains.
Merci Marine. Je te renvoie la même question qui est, alors peut-être que la Maison des Femmes est un projet avec une structure assez organisée et moins participative, et encore peut-être que tu me détromperas. Dans tous les cas, vous avez un travail de plaidoyer qui responsabilise chacun d'entre nous sur la compréhension de ce qu'est la violence, dont on peut être victime, auteur, mais aussi témoin. Et tu fais ce travail-là pour que ce sujet-là nous appartienne à tous. Et puis, il y a eu ton déploiement avec un peu moins, je crois que c'est 14, hein, 14 maisons des femmes aujourd'hui sur le territoire. Est-ce que tu peux nous parler de ce mouvement, à la fois via le plaidoyer et via le déploiement?
Oui, tu as raison. C'est pas tout à fait comparable.
Non.
Peut-être que le mouvement a été double. Il y a eu un mouvement des professionnels de santé qui se sont emparés du concept. Et ça, c'était extrêmement intéressant parce que ils étaient comme moi. C'est-à-dire, je sais pas, on m'a pas appris. Comment je fais? Ça me parle, j'aimerais faire la même chose. Et ça a été très intéressant de les accompagner, d'organiser des formations, justement à destination de ceux qui voulaient faire. Donc les professionnels de santé qui se sont saisis du projet. Il y a eu aussi un mouvement vis-à-vis du mécénat, et ça c'était pas gagné, et c'était au début, maintenant c'est sans doute beaucoup plus banal, mais assez original, parce que la santé c'est quand même, c'est pour l'État, normalement. On n'est pas supposé financer à ce point-là des problèmes de santé. Or, quand j'ai parlé à des mécènes qui pouvaient m'aider de manière substantielle, ils ont tout de suite décidé que, bien que ça ne soit pas vraiment à eux de le faire, ils allaient s'engager, presque à la limite, ils étaient contents de mettre plus d'argent que l'État dans cette cause. Et ça, c'était une émulation assez marrante. Et donc, il y a tout un... on appelle ça le club des mécènes, donc ils sont maintenant une douzaine de grandes fortunes, de grosses fondations comme Kering, AXA, Accor, qui ont décidé de donner une partie de leurs bénéfices au soutien à cette cause. Et puis après, il y a eu les entreprises, les écoles, les magistrats, les policiers, et vers lesquels nous sommes allés justement apporter de la pédagogie pour que, en ce qui concerne les policiers, par exemple, les victimes soient reçues de manière un peu plus adaptée, parce que ce n'était pas toujours le cas. Et puis dans les entreprises, en fait, pour que chacun comprenne que, et tu l'as très bien dit, on peut être victime, auteur ou témoin, on est parfois les trois, mais que quand on est témoin, même si on n'est ni professionnel de santé, ni magistrat, ni policier, on a un rôle essentiel. C'est-à-dire que si vous entendez vos voisins se taper dessus tous les soirs, rien ne vous empêche d'appeler la police. Si vous avez l'impression qu'il y a un gamin qui pleure horriblement tous les soirs de l'autre côté de la cloison, vous pouvez faire le 119 et vous pouvez rester anonyme. Mais au moins, vous aurez peut-être protégé un enfant. Et ça, les gens sont extrêmement timorés, parce qu'on a aussi cette idée de « ça ne me regarde pas, c'est la vie privée, de quoi je me mêle, peut-être que je vais faire mal ». Et nous, ce qu'on apporte, c'est « il vaut mieux faire, peut-être par excès, que d'avoir des morts sur la conscience ». Et ça, je trouve ça intéressant, parce que de plus en plus d'entreprises nous appellent en disant « est-ce que vous pouvez venir faire une sensibilisation, un petit déjeuner, un machin ?» Et ça fait boule de neige. Et maintenant, les entreprises font elles-mêmes leur propre vademécum des violences dans notre entreprise et s'investissent de plus en plus. Et ça, c'est tant mieux, parce que je pense que les femmes bossent dans des entreprises, parfois leurs conjoints bossent dans ces entreprises, et c'est très très compliqué pour les ressources humaines de départager les choses, de se dire comment je vais l'aider, est-ce que jusqu'où je peux aller, est-ce qu'elle va m'envoyer promener parce que ça ne me regarde pas. Et le cran d'après, c'est les enfants, parce qu'il faut bien comprendre que si nous avons aujourd'hui des adultes violents et des adultes victimes, c'est parce que nous n'avons pas protégé nos enfants. Et ce qui, moi, me fascine, c'est combien on est nul en protection de l'enfance, combien on se satisfait d'une aide sociale à l'enfance complètement décrépite, d'agresseurs qui sont éducateurs sportifs, curés, profs. Comment c'est possible? Et dernier chiffre qui devrait vous empêcher de dormir, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents, et ça n'est pas acceptable.
Je t'en rajouterai un qui est bien horrible aussi, que j'ai appris il y a quelques jours, 10% d'inceste.
Oui, c'est... évidemment, ils ne meurent pas tous.
Il y en a 3 par classe quand même.
Bien sûr.
Mais on voit bien comment la maison des femmes aussi nous donne le pouvoir. Je pense que c'est quelque chose qui est très commun dans chacun de vos... je ne sais pas si le mot mouvement est très adapté, mais dans chacune des actions que vous avez créées, c'est que vous nous autorisez, vous nous donnez le pouvoir en tant que consommateur. Vous nous rappelez qu'en tant que consommateur, chaque jour, je fais plusieurs fois des choix de société. En tant que citoyen en capacité de protéger les paysages que j'aime, en tant que citoyen avec obligation de protéger les gens qui m'entourent, en tant que citoyen pour co-définir les politiques de santé qui me concernent, et pas que les politiques de santé, parce que Abdelali en a pas parlé, mais effectivement il s'étend dans tous les sens, dans l'éducation, sur les enjeux climatiques, etc. Et puis avec toi Flore, en tant que beaucoup pour les enfants, même si je suis enfant, j'ai aussi le pouvoir d'aller agir. J'avais préparé plein d'autres questions, mais comme je sais que le temps tourne, j'aimerais bien d'abord passer le micro à la salle, et puis je garde mes questions si j'aime. Oui, alors excuse-moi, je t'ai squeezé, je suis désolée Nicolas. Tu sais pourquoi? Parce que pour moi, tu es tellement par essence un mouvement de consommateur, tu t'es créé comme ça, que c'était quelque chose qui était évident, mais peut-être que tu veux en dire quelque chose.
Bien de partager. Mais si quelqu'un peut raconter quand même la métaphore récente que j'ai vue des ballons, vous avez vu, c'est extraordinaire, non? Oh non, alors j'ai mal à raconter parce que j'ai essayé de la raconter au bureau et on m'a dit non, c'est pas du tout ça. Non mais tant pis, je vais essayer. Ah, je suis étonné là, j'aurais bien aimé que quelqu'un la raconte à ma place. Je crois que c'est ma fille qui me dit, tu as vu la métaphore des ballons? Alors, il y a une image avec énormément de ballons. Et dans un couloir, on va dire, de ballon bleu. Et donc, c'est un professeur, si j'ai bien compris, pardonnez-moi, vous irez la retrouver sur Internet, qui a 100 enfants, 3 classes, qui dit, voilà, vous allez écrire tous sur ce ballon votre prénom. Voilà, tous les enfants le font, et puis on mélange les ballons. Imaginez cette pièce remplie de ballons. Et ensuite, il dit, voilà, à partir de maintenant, vous devez tous retrouver votre ballon avec votre prénom. Les enfants partent. Au bout de 20 minutes, il y en a 6 qui ont trouvé leur ballon avec leur prénom. Puis après, il dit, écoutez, on va faire différemment. Maintenant, voilà ce que vous allez faire. Vous allez donner à votre copain ou copine le ballon porteur de son prénom. Et là, évidemment, en quelques minutes, chaque ballon était dans la main du bon enfant. Évidemment, on comprend que pour trouver le bonheur, c'est peut-être intéressant de s'intéresser au bonheur des autres. Voilà, voilà cette métaphore, bon, pas spécialement bien racontée, vous l'avez vu, mais c'est une façon de vous... Non, mais il y a une autre, je dis juste, on l'explique souvent, et ça donne aussi un peu d'espoir. Parle-nous, mais j'imagine, vous avez tous un moment, enfin j'imagine, dans la journée, vous faites une chose dans votre vie tout le temps, enfin on fait des trucs exceptionnels tout le temps. Si on prend le soin de se dire qu'on est un petit maillon de la chaîne, nous, s'il n'y avait pas eu cette dame dans un supermarché quand les producteurs étaient dans une misère absolue, 120 euros par jour, ils perdaient chaque jour 120 euros, il y a une dame qui a pris le tract en désespoir donné par les agriculteurs. Tout le monde l'avait jeté. Il leur restait 2 mois avant que toutes les fermes s'arrêtent. Et elle a pris. Elle avait sa famille dans le monde agricole. Elle l'a trouvé très émue, les producteurs qui étaient devant elle. Elle est allée jusque dans le bureau de son directeur. Ça aurait pu être... Le directeur, je l'ai vu après, il n'était pas forcément très facile. Et parce qu'elle a donné ce tract et parce qu'elle ne l'a pas mis dans la corbeille, toute l'histoire de ce qu'il patron a pu se faire avec Carrefour. Et on a retrouvé cette dame, il y a un documentaire, on a cherché longtemps, et on a réussi à la trouver avec les producteurs. C'est tellement émouvant, vous verrez cette scène dans le documentaire. Ils viennent lui dire à quel point son geste a tout changé pour eux. Donc il y a une part de petits gestes. Et une dernière image, parce que celle-là, je l'ai trouvée merveilleuse pour faire comprendre aussi des choses. Nous, on nous a dit, mais comment ça a marché, mon Dieu, la fameuse recette? Mais nous, on n'a pas de stratégie, on a fait un peu comme ça, spontanément, les choses. Et un jour, comme on n'arrivait pas, moi, mon rôle, c'est de parler un peu aux journalistes. Donc, j'étais dans ce rôle d'essayer de décrire le mouvement et comment il existe. Et il y a un sociétaire qui m'a dit, je te vois quand même en difficulté, je vois qu'il faut parler de comment de simples consommateurs ont créé 100 millions de produits par an, là on arrive à 500 millions, ça a des milliers de familles, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de... Comment c'est possible? Il m'a dit, mais tu vois, il existe dans le monde animal une chose qui s'appelle la murmuration. Et la murmuration, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la murmuration, il m'explique en me disant, tu vois, c'est les immenses vols des tourneaux qui partent, milliers tournent dans des volutes absolument parfaites. Vous voyez, ces figures géométriques incroyables. Et en fait, et les bancs de poissons aussi, ouais. Et en fait, les scientifiques ont montré qu'il n'y avait pas un oiseau leader. Il n'y a pas un individu qui crée une impulsion pour cette immensité de milliers d'individus. Il y a une intelligence collective qui s'empare du groupe et qui lui fait faire ce qu'aucun individu n'aurait pu faire à ce groupe tout entier. Donc quand on fait confiance à la dimension collective, quand on se laisse finalement faire aussi par autre chose que l'action individuelle, il y a un supplément d'âme assez peut-être irrationnel, immatériel, mais qui s'empare aussi des sujets. Voilà, donc ça c'est une image qu'on avait retenue nous comme une explication de peut-être cette possibilité de faire des choses collectivement.
Je te remercie, Nicolas. Je vais vous passer le micro. Juste avant de vous passer le micro, parce que tu me tends une perche qui est extraordinaire, parce qu'en fait, tu synthétises plein de choses qui ont été dites là. Tout à l'heure, tu disais, Marine, que tu t'étais lancée là-dedans aussi, parce que tu avais besoin de te reconnecter à quelque chose de joyeux. Et ça m'évoque une discussion que j'avais eue avec toi, Fleur, où tu disais que l'engagement... Vous avez été une des choses dans le monde qui nous reconnectait à la joie et finalement on n'en avait pas tant que ça. Et ton histoire de ballon en fait nous ramène à ça aussi, de vol collectif, de ces étourneaux aussi d'une certaine manière. Donc je crois que si parmi les messages que j'aimerais que vous reteniez de ce livre-là et de cette soirée, c'est ça aussi, c'est que non seulement tous les métiers peuvent s'y prêter, mais en plus c'est joyeux. C'est aussi une façon pour chacun d'entre vous, je pense, d'avoir trouvé votre lumière et votre chemin. Et puis, l'autre perche que tu me tends, et je pense qu'on l'a senti dans tout ce que vous avez dit, c'est qu'il faut aussi parfois déconstruire. Pour pouvoir inventer, il faut arrêter de penser comme on le faisait auparavant. Et ton vol des étourneaux m'y refait penser parce qu'on est aussi beaucoup dans un mode de fonctionnement très hiérarchique. Quand on parle du médical, on a notre médecin qui nous soigne. Et oui, il y a aussi des choses à faire en grassroots, en collectif. Et je pense que toutes vos organisations le montrent. Et ça, c'est aussi un très beau message à adresser ce soir. Je voudrais faire passer mon micro. Qui est-ce qui a envie de se lancer pour la première question, parce que vous n'allez pas avoir un parterre avec des inspirants comme ça tous les soirs.
Mais peut-être avant, monsieur a parlé des poissons, j'ai une seconde. Il y a des scientifiques qui ont montré que ces immenses bancs de poissons, donc c'est de la murmuration. Il y a un moment où tout s'arrête, c'est si vous leur donnez à manger. Enfin, si à un moment donné, il y a un instinct individuel qui prend le pas sur la dimension collective. Monsieur, vous aviez certainement une question, vous aviez une très belle image sur la murmuration poissonnifère.
Merci, c'est juste, je sais que la première est toujours la plus difficile. Non, moi je voulais juste dire que j'ai été très touché, je suis évidemment un fan du podcast, j'ai pas tout écouté mais je pense une bonne moitié ou les deux tiers.
C'est pas mal.
Et il y a une énergie et une attitude, moi c'est un mot qui me revient tout le temps et je regarde mon voisin d'en face, Abdelali, parce que je crois que c'est dans le podcast, c'est l'un de ceux qui m'a communiqué le plus d'énergie. Et on fait tous des choses, mais alors, il y a beaucoup d'énergie et d'attitude qui vous ont finalement permis d'être des inspirants. Donc je voulais juste partager ça, c'est pas une question. C'est juste pour casser la glace.
Bonsoir, déjà merci beaucoup. Je connaissais pas du tout, je suis venue un peu à l'improviste avec une association et vraiment c'est super inspirant. Sans mauvais jeu de mots. Alors personnellement, je suis étudiante en droit international en dernière année et ça me parle énormément ce que vous dites sur le droit de l'environnement, parce qu'en droit international, on en fait énormément aussi. On fait beaucoup de droit international humanitaire surtout. Et c'est un peu une question de remarque, mais j'ai l'impression que ce qui sort depuis le début de la soirée, c'est un peu cette idée globale de dire
comment est-ce qu'on change les choses ensemble et comment est-ce qu'on arrive à pas simplement avoir l'idée, mais de concrétiser l'idée. Et c'est un peu le truc de toute la concrétisation de l'idée en tant que telle. Comment est-ce qu'on fait l'action ? Parce qu'on a le choix d'avoir l'idée, mais le choix de réaliser l'idée, c'est autre chose, et c'est une autre question. Et je voulais vous demander qu'est-ce qui, vous a permis d'aboutir ? Parce qu'il me semble que tout à l'heure, vous aviez parlé un peu tous les quatre des difficultés financières, économiques, même psychologiques, de devoir aboutir à vos projets qui sont faramineux, je trouve. Et oui, en fait, qu'est-ce qui a persisté dans votre envie pour pouvoir dépasser ça et faire que l'idée soit concrète ?
Et ta question s'adresse à Marine ?
Non, un peu tout le monde, en fait.
Un peu tout le monde.
Thomas ?
Est-ce qu'on va se faire virer un moment ou l'autre de la librairie ? C'est pas grave.
Je vais répondre pas pour tout le monde, vous réagissez aussi, mais en fait, j'ai jamais trop eu l'impression d'avoir le choix. Parce que je pense que c'est, moi j'ai été éduquée comme ça aussi et que du coup ça s'impose. C'est pas un moment dans ma vie où je me suis dit il me semble que ce serait la bonne chose à faire, certes, mais en fait c'était pas négociable. Et d'ailleurs, ce que je comprenais pas, d'ailleurs, qu'il y ait eu un entretien d'embauche une fois que j'ai eu mon diplôme d'avocate, j'avais en face de moi deux personnes qui avaient à peu près le même âge que moi. Peut-être deux années de plus d'exercice en cabinet d'avocat. Je me suis posée, elles ont regardé mon CV, elles se sont regardées, elles m'ont regardé, elles me disent mais vous n'avez pas compris où vous êtes en fait, vous êtes chez les méchants ici. Et je me suis dit mais c'est lunaire. De même, ils disent on est chez les méchants. Je veux dire, ils avaient à peine plus de 20 ans. Moi, ce qui me choque, c'est plutôt qu'est-ce qui va pas dans ta tête quand tu te... Non, mais c'est vrai. Quand d'entrée de jeu, tu te dis à 20 ans, je m'en fiche en fait de faire le mal, je m'en fiche de pas contribuer au bien collectif. Mais c'est surtout ce qui me choque, c'est dans quel monde de sociopathes on peut cohabiter quand on se dit, il y a des gens que ça choque pas du tout d'avoir un salaire à la fin du mois pour juste détruire l'environnement. J'ai pas eu du tout le sentiment d'avoir le choix de me dire c'est simplement ce qui est juste à faire. Après, heureusement pour moi, j'avais hérité de mon père le fait de pas trop attacher au bien matériel, parce que je t'avoue que c'est pas non plus le chemin vers la richesse. mes copains rigolent toujours en me disant Marine, elle a fait vœu de pauvreté, c'est très drôle. Et en même temps, comme un peu nous, c'est ce qui te remplit le matin, c'est pas ce qu'il y a sur ton compte en banque, c'est le fait de dire, moi ce qui me remplit le matin, c'est de me dire, waouh, on est parti avec deux personnes, un peu billes en tête, aujourd'hui on est six dans l'ONG, je ne sais, j'arrive pas, même pas à exprimer la gratitude que j'ai d'avoir ces gens avec moi, je ne sais même pas... Ils sont assez fous pour croire à ce qu'on dit, ce qu'on pense, à tous ces idéaux-là. Ils se lèvent tous les matins en se disant « on va bosser ensemble ». On ne sait absolument pas où on va. C'est-à-dire que j'essaie de leur dire avec, en toute humilité, je n'ai aucune idée de à quel moment une porte va s'ouvrir, à quel moment on va faire reconnaître les droits d'un fleuve, d'une rivière. Je n'ai aucune idée, mais je prends le pari. Et donc, c'est l'espoir, une immense gratitude, et de se dire, en fait, j'ai pas eu le choix, je l'ai fait par conviction. Mais après tout, pourquoi pas ?
Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Compléter ? Fleur ?
Vas-y, Fleur. Pardon.
Juste pour rebondir là-dessus, j'ajouterais juste un mot. Il y a bien sûr la question de la dignité personnelle. Ce n'est pas un choix. Il y a le refus absolu de renoncer, en fait. Ce n'est pas possible. C'est juste une espèce de posture... on ne veut pas ressembler à ces gens-là. On se rend compte qu'en fait, c'est l'espèce de truc complètement repoussoir qui pose la question « Qui es-tu ?» En fait, vraiment, face à cette situation d'injustice ou cette folie ou ça, qui est-ce que tu as envie d'être, en fait ? Et après, ça s'incarne dans nos choix, dans les actes qui sont posés. C'est clair qu'il y a un arbitrage... à faire, enfin voilà, c'est la liberté vient avec la précarité, ça c'est sûr, et qu'en fait ce que toi tu vis, ce que je pense qu'on vit tous, c'est je reviens à ça, mais cette espèce de grande appétit en fait, de curiosité et d'appétit pour les gens, parce qu'en fait on est dans une aventure.
c'est précisément décider que c'est pas la fin. Voilà. Donc, si c'est la fin, ben, on va avec les sociopathes, ça, on a bien compris. Voilà. Et si on a décidé que c'était pas la fin, ben, y a une brèche. Et alors, ça peut être dur. Et alors, il y a tout le monde qui vous rigolonner. Et alors, voilà. Et surtout si vous êtes jeune et femme. Donc, c'est clair. Pardon, messieurs, mais je crois qu'il y a un truc de plus aussi là-dessus. Et encore jeune femme, et en plus métisse, etc. Enfin, voilà. Il y a vraiment des difficultés qui peuvent se rajouter. Mais toujours est-il que c'est vraiment un choix de... En fait, je suis là pourquoi. Et du coup, qui est-ce que j'ai envie d'être? Et du coup, comment je me positionne? Et après, il y a des facilités qui peuvent être liées à l'éducation, qui peuvent être liées aussi... à des facilités, des certains privilèges. Moi, je suis née avec un certain privilège d'être dans une famille qui allait bien, de médecins qui m'ont aussi donné ces valeurs de prendre soin des autres, mais aussi une éducation, mais aussi... Voilà. Mais ce que j'ai vu, en tout cas, chez les protagonistes du film, c'est qu'il y a effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, quelque chose qui n'est pas négociable et qui est de l'ordre de « je suis cette personne là » et ça s'incarne à partir de maintenant.
La librairie ne nous vire pas. On a le temps pour quelques questions encore.
Mais ça, c'est le truc. C'est celui-là.
Merci beaucoup. D'abord, moi, je suis acquise à la cause et surtout acquise à Delphine. Donc, bravo. Et on est super fiers de toi. Voilà. Donc, c'est la première chose. Et avec nous, nos enfants qui ne sont pas là, mais qui sont là par le cœur, je voulais te le dire. Moi, il y a un mot qui manquait. J'étais très impressionnée par les parcours de chacun. Et cette boussole intérieure que vous avez tous, c'est le mot de courage. Il n'a pas été prononcé. Alors, on vous entend, on a l'impression que c'est simple. Mais je suppose que rien n'a été simple. Je suppose qu'il y a encore beaucoup d'embûches sur le chemin. Et je voulais vous dire que, pour moi, c'est une valeur majeure. Peut-être la plus belle valeur aujourd'hui, dont l'Occident a beaucoup besoin. Donc, bravo pour votre courage à tous. Et puis, bravo, Delphine, pour le courage d'avoir embarqué tout le monde.
Merci beaucoup. Et effectivement, courage. Et on n'a pas parlé des difficultés. Ça faisait partie des choses sur lesquelles j'avais envie de vous entendre. Et je préfère faire passer le micro. Mais évidemment, ce n'est pas un chemin de rose tous les jours. Même s'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de luttes aussi. Il faut aller lever les fonds. Il faut aller convaincre en permanence. Et ce courage, vous l'avez pour nous tous. Vous l'avez pour la société. Donc c'est quand même effectivement quelque chose...
Bon, c'est assez simple, mais courage, rage du cœur. Hein. Donc voilà.
Allez.
Est-ce que quelqu'un veut le micro? Qu'il se lève ou se taise à jamais.
Ils sont timides, hein.
Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. On les
La perche est facile à prendre et la question me titillait. Oui, c'est quand même pas facile. Donc, c'est un peu le... Je sais pas si chacun arrive à donner quand même... à partager le frein, la chose qui a été peut-être pour vous aussi un peu personnellement la plus dure à surmonter, parce que je pense que quand on a envie à notre humble mesure de changer les choses, il y a quand même des moments où, même si ça met en joie, ça y est, alors là, 150% d'accord, il y a quand même des moments où on se prend des murs pas sympas, quoi, voilà. Donc, qu'est-ce qui, voilà, quel est le peut-être les... Enfin, pardon.
Ouais. Qu'est-ce qui est dur ?
Qu'est-ce qui est dur ?
Qu'est-ce qui est dur ? Professionnellement ou personnellement sur ce chemin ?
Je peux dire un mot sur ça, moi.
Merci. Alors, c'est une question très intéressante. En fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous avez l'envie de faire quelque chose. Alors, ce n'est pas une idée, ce n'est pas quelque chose qui est comme ça en surface. C'est profond. C'est même étonnant d'aller refaire le chemin parce que tu le fais tellement pas en arrivant, en te disant, tiens, mercredi prochain, je vais faire un truc bien, ça serait ça. En fait, c'est viscéral. Et bon. Mais tu te tournes autour de ta famille et tu leur dis, qu'est-ce que vous penseriez éventuellement? Ça serait bien de faire une marque de consommateur, qu'il y a des producteurs. Et là, très étonnamment, attention, ne posez pas trop de questions aux gens très proches, parce qu'ils ont une espèce d'instinct qui va consister à dire, oui, oh non, ouais, non, mais franchement, si tu me poses la question... Si ça n'existe pas, c'est qu'il y a quand même une raison. Bon, donc, n'écoutez pas forcément. Et ce sont des gens qui nous aiment, hein, mais qui, finalement, voilà. Et puis après, c'est bien d'avoir un fou dans la famille. Moi, je me rappelle, J'étais à la confrérie de la fraise de Carpentras et je me suis dit, il faudra aller à l'Élysée parce que ça va, j'avais 18 ans, ça va aider les producteurs à montrer leurs produits, l'Élysée, les médias, enfin j'avais pas encore compris que c'était pas... Mais en tout cas, j'ai voulu y aller. Et j'ai demandé à mon père, mais tu crois qu'on peut aller à l'Élysée? J'ai appris qu'il était persuadé que c'était pas possible, mais il dit, bien sûr. Mais bien sûr. Tu appelles et tu verras, ils sont très heureux. Des fraises au printemps. Bon, j'ai appelé. Et là, miracle. Jocelyne Gastelu. Oui, voilà, madame, écoutez, on est à la confrérie de la fraise de Carpentras. On aimerait bien vous amener des fraises pour... ça aide les producteurs pour le premier jour du printemps. Elle m'a dit, mais très bonne idée. Et quelques jours après, on était en train de... Dans la salle des fêtes de l'Élysée. Enfin, je suis dans une caméra cachée. Donc, vous voyez, les fameuses barrières. Si je les avais... Imaginez, si on les avait mises, elles auraient été tellement présentes, d'ailleurs seulement dans ma tête, entre soi dire, que j'aurais jamais peut-être fait ça. Bon, je dis « je » là dans ce cas-là, mais je pense qu'on peut se rendre compte que voilà, il ne faut pas trop ni écouter, pas forcément s'écouter dans sa part de peur. Et après, pour finir, vous l'avez tous tellement bien dit, on a, là, il y a une... C'est pas la bonne image, mais il y a une bombe à neutrons d'énergie extraordinaire. Il n'y a plus d'argent, certes, mais il y a un truc qui vaut tellement plus, et qui est un trésor absolument tellement plus grand que l'argent, l'argent est dur à trouver, c'est nos heures disponibles, notre énergie. Ce moment où on est capable de prendre un sillage, ou de tracer un sillage. Parce que je suis persuadé, ils ne l'ont pas dit, mais en réalité, il n'y a pas... C'est très étonnant, mais il n'y a pas beaucoup d'efforts, en fait. Quand tu... Il y a des moments plus difficiles, mais tu es porté par quelque chose où on te réveille, un journaliste, en disant « Mais attention, c'est facile ou c'est pas facile ?» Tu dis « Quoi ?» Et en fait, tu étais en train d'avancer. Voilà, donc, ces heures disponibles, ce trésor absolu, qui est seulement dans vos poches et pas dans celles de gens qui peut-être ne font rien, c'est fabuleux à l'utiliser ensemble.
Je vais juste rajouter quelque chose sur ce que tu dis. On parle beaucoup aujourd'hui du calcul de notre empreinte carbone. On fait tous ces ateliers de tonnes, etc. Ou est-ce qu'on mange trop de viande, est-ce qu'on se déplace trop en avion? Mais il y a un truc qu'on ne fait pas, et c'est de réfléchir sur ce qu'on appelle notre ombre carbone, ou notre ombre d'engagement. C'est-à-dire comment est-ce qu'au-delà de... En tant que consommatrice, et je suis désolée...
L'acte
d'achat, bien sûr, c'est énorme. Mais au-delà de notre acte d'achat, comment est-ce qu'on peut agir sur nos zones d'influence? Et d'abord, du coup, par nos heures, comme tu viens de le dire, par nos compétences professionnelles, comment est-ce qu'on peut remettre nos métiers au service de quelque chose qui en vaut la peine? Et ça, c'est ce que j'espère que vous garderez de cette soirée, parce que c'est le fil rouge de ce livre et aussi en grande partie du podcast. Je vous remercie, mais alors tellement...
Grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcasts. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.